Daniane Roy et voici vos informations locales et régionales de CHJA FM. Lundi dernier, le gouvernement fédéral a soumis de nouveaux amendements au controversé projet de loi C-21 qui légifère sur la vente et la possession des armes à feu. Ces modifications visent à répondre aux préoccupations de nombreuses communautés, dont les chasseurs et les Premières Nations notamment. Voici le reportage d'Alexis Goyer.
La nouvelle version du projet de loi C-21 ne propose pas de liste incluant des marques ou des modèles précis pour l'interdiction des armes d'assaut. Elle préconise plutôt une description claire de ce qu'est une arme d'assaut. Le but est d'éviter que certaines armes utilisées par les chasseurs ne se retrouvent sur cette liste ou qu'au contraire, de nouvelles armes absentes de la liste n'échappent à la législation. La mise à jour ajoute également les armes fantômes, fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D, et les chargeurs de grande capacité aux armes à feu prohibées. Un autre amendement précise qu'aucune de ces propositions ne déroge aux droits des peuples autochtones. Une réglementation exige aussi que les fabricants demandent d'abord un numéro de référence d'armes à feu avant d'être autorisés à vendre au Canada. La députée fédérale, Sophie Châtel, explique que grâce à cela, la responsabilité se retrouve maintenant sur les épaules des fabricants et des commerçants plutôt que celle des acheteurs.
Dorénavant, il y a une définition technique qui s'applique à tout nouveau modèle et ce sera la responsabilité des manufacturiers de s'assurer qu'ils ne sont pas sur le marché.
Selon le maire de Gracefield, Mathieu Caron, échanger une liste d'armes prohibées contre une description d'armes interdites n'ajoute aucune pertinence au projet de loi. Selon lui, le problème de la violence et de l'insécurité ne se limite pas à la présence d'armes à feu sur le territoire. Il précise sa position sur le sujet.
Le gouvernement ne va pas s'attaquer au réel problème, ne va pas dans le fond des choses où on voit que les différentes tueries qu'il y a eu dernièrement sont des véhicules béliers deux fois au Québec cette année. Des attaques au couteau, on a pu voir une policière se faire tuer avec une attaque au couteau, arme blanche. Donc, on ne s'attaque pas au fond du problème.
Néanmoins, autant les détracteurs que les défenseurs du projet de loi C-21 s'accordent pour dire qu'investir dans la santé mentale est le meilleur moyen de garantir un environnement sain et sécuritaire pour la population. C'était Alexis Goyer pour CHGA FM.
Un nouveau service destiné aux jeunes de 8 à 12 ans sera offert dès la semaine prochaine à Gracefield. À la suite d'un partenariat conclu avec la Maison de la famille Centre de pédiatrie sociale Vallée de la Gatineau, l'organisme Jeunesse sans frontières ouvrira une maison des jeunes dans les locaux de la Maison de la famille située à Gracefield. Le service sera offert chaque mardi et jeudi entre 15h30 à 18h. Par la suite, un transport sera offert afin de ramener les participants à leur domicile. Chantal Laviolette, coordonnatrice clinique chez Jeunesse sans frontières, explique que ce service répond à un besoin exprimé par les jeunes.
Il y avait un manque de service au niveau des 8-12 ans par rapport aux maisons de jeunes. Donc, le besoin est ressenti, était ressorti aussi pendant le comité jeunesse. Puis ils ressentent le besoin de venir ici. T'sais, ils viennent sur le bord de la piste cyclable. Puis quand est-ce qu'on va pouvoir aller à la maison de jeunes? Donc, c'est vraiment un besoin qui est ressorti des jeunes et aussi des partenaires. Donc, on a décidé de mettre quelque chose en place pour eux.
Pour l'instant, le service est offert principalement aux élèves qui fréquentent l'école Sacré-Cœur de Gracefield et l'école Sainte-Thérèse de Kayama. Des adolescents âgés entre 15 et 17 ans qui participent aux activités de Jeunesse sans frontières animeront certains ateliers offerts aux plus jeunes et recevront une rémunération pour leur travail. Chantal Laviolette parle des activités qui seront organisées.
Le gouvernement ne va pas s'attaquer au réel problème.
Les intéressés doivent remplir la fiche d'inscription disponible auprès de ces deux écoles et la retourner avant mardi. Le service sera offert jusqu'à la fin des classes. Par la suite, un bilan sera réalisé et une décision sera prise afin de déterminer si le service reviendra en septembre, ce qui est le souhait de Jeunesse sans frontières. Le conseil municipal de Blue a récemment établi une politique et un plan d'action visant à améliorer la vie et la sécurité des résidents du coin. Samedi a eu lieu une consultation publique en lien avec l'affaire afin de justement présenter les composantes de la dernière version du plan d'action s'étalant sur 3 ans. Le plan cible 6 différents axes tels que la communication, l'environnement, la sécurité et le développement de la municipalité. Avec ce projet, la municipalité souhaite contribuer au développement de son milieu afin d'offrir un environnement qui répond entièrement aux besoins de ses résidents. Le responsable du dossier et conseiller à la municipalité de Blue Sea, Michel Houde, donne quelques exemples d'actions qui pourraient être entreprises.
s'assurer la sécurité des enfants en mettant des balises sur les rues du pont, en développant des activités sécuritaires, en allant les rencontrer pour les sensibiliser autant à l'environnement, à la protection des verts. Finalement, il y a au moins une soixantaine d'actions que nous proposons à la municipalité de poser dans les trois prochaines années.
Rappelons que ce plan a été réalisé à la suite d'un sondage qui était disponible auprès de la municipalité ainsi que sur son site web. Même si peu de personnes étaient présentes lors de la consultation, Michel Hout souligne que le sondage a quant à lui récolté un plus grand nombre de participations, ce qui a permis d'élaborer un plan inclusif à tous les résidents.
Une quarantaine de personnes avaient répondu au sondage de tous les âges, des catégories aussi économiques, autant au niveau familial qu'au niveau des aînés. On a quand même réussi à rejoindre toutes les catégories de citoyens, ce qui est important pour vraiment élaborer une politique qui tient compte des besoins de toute la catégorie de citoyens.
Selon M. Hood, ce plan d'action ne devrait pas engendrer de dépenses importantes à la municipalité, car le tout devrait pouvoir s'autofinancer. En terminant, le maire d'Aumont, Mario Langevin, s'est enrichi de plus de 75 000 $ grâce à la chance au cours de la dernière semaine. Il a remporté la somme de 78 500 $ à la poule aux œufs d'or lors de l'émission diffusée dimanche. C'est grâce à un billet acheté avant la période des fêtes que M. Langevin a gagné une participation télé. Voici ce qu'il a déclaré plus tôt aujourd'hui lors d'une entrevue accordée dans le cadre de l'émission Anne le matin.
Quand la caissière a commencé à vérifier ça, ça s'est mis à sonner d'une façon bizarre, la machine. Même la caissière était surprise.
Ben, j'imagine, hein?
Ah, oui, fait que de choses et d'autres, c'est ça. Ça, on avait gagné une participation télé. Fait que c'est assez spécial. J'ai jamais gagné beaucoup, beaucoup. Là,
OK.
Je ferais comme tout le monde, j'achète un 649 de temps en temps. Ça s'est bien déroulé, à mon grand étonnement moi-même.
C'est ce qui complète vos informations locales et régionales de CHGFM.